VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 9 septembre 2016, en direct de Washington. Idrissa Seloudia et Jean-Roger Bion pour commencer les titres.
Dialogue national en RDC, les participants disent du scrutin qui doit ouvrir la saison électorale. La question est de savoir s'il faut commencer par les élections locales ou la présidentielle.
En Côte d'Ivoire, l'opposition ivoirienne satisfaite de la reprise du dialogue avec le pouvoir après une réunion du cadre permanent du dialogue.
Tollé général après le cinquième essai nucléaire de la Corée du Nord, cette tentative ne sera pas sans conséquences, avertit le président américain Barack Obama.
Syrie rencontre John Kerry et Sergei Lavrov aujourd'hui à Genève pour surmonter des différends persistants sur la crise.
Et ne manque pas notre page des sports ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'opposant gabonais Jean Ping a finalement déposé jeudi un recours contre la réélection du président Ali Bongo, répondant ainsi à la suggestion de la communauté internationale pour gagner du temps et calmer les esprits dans la violente crise post-électorale, Eddy Sango.
Nous demandons à la Cour constitutionnelle de constater qu'il y a des anomalies graves, a déclaré à la presse un des avocats de l'opposant Jean Ping, Jean-Rémi Bantsatsa, confirmant les dépôts du recours. Celui-ci concerne essentiellement la province du Haut-Ogooué, fief ethnique des Bongo, où le président sortant a obtenu plus de 95% de voix avec plus de 99% de participation. Pour l'avocat, la compilation des 174 procès-verbaux dont son camp dispose pour le Haut-Ogooué montre dans tous les cas qu'Ali Bongo ne peut pas gagner cette élection. Le camping reprend en son compte les dénonciations d'anomalies graves faites par l'Union européenne sur le Haut-Ogooué. Le président Ali Bongo a lui aussi déposé un recours dénonçant certains pourcentages anormaux dans des régions favorables à son adversaire. Alain-Claude Billy Binze, porte-parole du gouvernement, parle de fraude massive dans ces zones. La Cour constitutionnelle, dont de nombreux opposants contestent l'indépendance, dispose désormais de 15 jours pour trancher les contentieux électoraux.
L'opposition ivoirienne s'est montrée satisfaite hier de la reprise du dialogue avec le pouvoir à l'issue d'une réunion du cadre permanent du dialogue, le CPD, tout en réaffirmant ses positions sur les prisonniers politiques ou la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Le dialogue a repris, a dit le leader de l'opposition Pascal Afinguesson, justifiant son retour au sein du CPD par des gestes du pouvoir, dont le dégel des avoirs de 10 cadres de son parti, le Front populaire ivoirien, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, ainsi que la libération de 9 prisonniers politiques. L'opposition avait suspendu sa participation en février.
Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a annoncé jeudi la réouverture officielle de ses frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria, fermées il y a 2 ans en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévissait chez ses deux voisins. Cette mesure a été possible en raison de la fin de la transmission de la maladie décrétée dans ces pays, précise le communiqué lu par Mme Kofi Goudou, la ministre de la Santé. La Côte d'Ivoire, où aucun cas n'a été détecté, avait fermé ses frontières avec ses voisins affectés le 23 août 2014.
En Guinée-Bissau, une délégation de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a proposé la formation d'un gouvernement consensuel pour sortir de la crise politique que traverse le pays. De Bissau, Noura Mankali.
L'intention a été manifestée par le président de la commission de cette organisation sous-régionale, Marcel Dussouza, à sa sortie de la rencontre avec le président de la République, José Mario Vaz.
Nous sommes tombés sur 6 points pour sortir la Guinée-Bissau dans cette situation de blocage politique et de crise économique. Les 6 points sont les suivants. Premier point, organiser autour d'une table ronde l'ensemble des partis. Qu'il s'agit du PAIGC, du PRS et des 15 députés pour qu'on puisse arrêter une plateforme. Et cette plateforme-là, nous allons la mettre en œuvre. Deuxième point, il s'agit de mettre en place un gouvernement consensus, surtout inclusif, pour que nous allions vers une unité nationale. Troisième point, il s'agit pendant les 2 ans où nous allons mettre le gouvernement inclusif d'engager les réformes de la Constitution. D'engager les réformes des lois électorales, la réforme pour renforcer la justice et la réforme pour l'administration territoriale.
Nouaman Kalibissao, VOA Afrique.
La Corée du Nord a conduit aujourd'hui un cinquième essai nucléaire d'une puissance sans précédent. Selon Séoul, c'est le plus puissant essai nucléaire de Pyongyang. À ce jour, l'agence américaine a enregistré une magnitude de 5,3. Le président américain Barack Obama a prévenu qu'il y aurait des conséquences graves après la confirmation vendredi de ce nouvel essai. François Hollande a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à se saisir de cette violation de ses résolutions. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a qualifié d'acte d'autodestruction ce nouvel essai du Nord. La secousse a été signalée à proximité du site de Pyongri le jour anniversaire de la fondation de la Corée du Nord en 1948.
Crise en Syrie, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov doivent se rencontrer une nouvelle fois aujourd'hui dans l'espoir de surmonter les différends persistants sur la Syrie. Des différends qui bloquent toute avancée dans les pourparlers de paix Bagassi-Koura.
Les deux chefs de la diplomatie vont se rencontrer à Genève pour soutenir un accord de paix selon les Russes et le département d'État. Leur discussion fait suite à de récentes conversations et sera centrée sur la réduction de la violence, l'élargissement de l'aide humanitaire pour le peuple syrien et les avancées vers une solution politique pour mettre fin à la guerre civile en Syrie, a expliqué le porte-parole de la diplomatie américaine John Kirby. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Ashton Carter, a déclaré hier qu'il y avait toujours un long chemin à faire avant la conclusion d'un accord. Les deux parties estiment cependant qu'un accord devrait inclure un cessez-le-feu durable, un accès humanitaire aux zones de conflit et une reprise des négociations de paix qui sont au point mort. Barack Obama avait eu des entretiens sur la Syrie avec son homologue russe Vladimir Poutine en marge du récent sommet du G20 en Chine, mais aucune percée n'avait été enregistré.
Le patron de la CIA a averti que l'influence du groupe État islamique ne va pas disparaître de sitôt, bien que les territoires qu'il tient en Irak et en Syrie continuent de se rétrécir. John Brennan a dit mercredi, lors d'un sommet sur la sécurité nationale à Washington, que l'organisation restera une présence dans ces deux pays pendant un certain temps encore. M. Brennan a également mis en garde contre l'impact durable des combattants étrangers tentant éventuellement de rentrer chez eux.
Présidentielle américaine 2016, le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton ont échangé hier certains des propos les plus vifs de cette campagne, 24 heures après un forum télévisé sur la sécurité nationale.
Intervenant dans une école de Cleveland, dans l'Ohio, M. Trump a soutenu que la performance de Mme Clinton mercredi soir prouvait qu'elle n'était pas apte à être commandant en chef. Il a accusé de refuser d'assumer l'échec de ses politiques au Moyen-Orient quand elle était secrétaire d'État, qualifiant Mme Clinton de gâchette facile. M. Trump a dit qu'elle s'était engagée dans une course pour envahir des pays et renverser des régimes, ce qui a abouti à la ruine et à la mort en Libye, en Irak et en Syrie. Il a aussi dit qu'elle était à la tête d'une entreprise criminelle en parlant de trafic d'influence à la fondation Clinton tout en fustigeant son recours à un serveur privé.
Pour sa part, Mme Clinton, lors d'un rassemblement à Charlotte en Caroline du Nord, a dit être choquée par les propos de Donald Trump selon lesquels le président russe Vladimir Poutine était de loin un meilleur leader que le président Barack Obama.
Ça manque non seulement de patriotisme, mais c'est aussi une insulte à la présidence des États-Unis. Et l'homme qui occupe ce poste, c'est effrayant, c'est dangereux. Hillary Clinton a par ailleurs ridiculisé le prétendu plan secret de M. Trump pour détruire le groupe État islamique. C'est un secret parce qu'il n'a pas de plan. Elle a aussi reproché à M. Trump ses commentaires publics sur un briefing donné aux deux candidats sur la sécurité nationale.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Au Burkina, un web TV se consacre exclusivement aux activités agricoles et au monde rural africain. L'objectif de son promoteur et fondateur, Moussa Maïga, changer l'image, souvent mauvaise, de l'agriculture auprès des jeunes Africains et à sa manière d'aider au développement du continent. L'Union européenne a soutenu l'initiative avec 58 000 euros. Ce web compte aujourd'hui plus de 45 000 fans sur Facebook et a comptabilisé 800 000 vues de ses reportages. La Guinée a infligé une amende de 3 millions d'euros à deux navires industriels chinois qui pêchaient illégalement au large de ses côtes. Du 28 août au 1er septembre, ces deux navires et 12 autres bateaux de pêche ont violé les eaux gambiennes, sénégalaises, guinéennes et bissau-guinéennes. L'opération de surveillance, menée avec le soutien de l'Union européenne et de la Banque mondiale, permet de contrôler plus de 80 bateaux de pêche. Enfin, le géant informatique américain Apple a dévoilé ce mercredi, lors d'une présentation à San Francisco, deux nouvelles versions de son produit vedette. Il s'agit de l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus qui résistent à l'eau. Les deux appareils ont des processeurs plus puissants et leur appareil photo intègre des technologies censées garantir de meilleures images. Le modèle 7 Plus aura même un système de double caméra. La montre Apple Watch série 2 a été mise à jour. Elle inclut une résistance à l'eau jusqu'à une profondeur de 50 mètres, un GPS qui permettra à ses utilisateurs de monitorer leur activité sans avoir à emporter leur smartphone. Parallèlement, Apple sortira le 13 septembre une nouvelle version de son système d'exploitation mobile baptisé iOS 10.
À présent, notre page sport avec Jacques Aristide. Jacques, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Deux des clubs les plus puissants et performants d'Europe, le Real tenant de la Ligue des Champions et l'Atlético Madrid finaliste, seront privés de recrutement lors des deux prochains marchés des transferts de janvier et août 2017.
Oui, c'est ce qu'a confirmé la FIFA hier. Les deux clubs madrilènes avaient été sanctionnés le 14 janvier dernier d'une interdiction de recruter pour des infractions dans les transferts de joueurs mineurs, à l'instar du FC Barcelone, sanctionné en 2014. Ils ont également écopé d'une amende respectivement de 822 000 euros et 328 000 euros et disposent de 90 jours pour régulariser la situation de tous les joueurs mineurs concernés.
Le comité paralympique international a annoncé hier avoir sanctionné un Bélarusse.
Parce qu'il avait brandi un drapeau de la Russie avant-hier à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Rio, alors que les Russes sont exclus de la compétition en raison du scandale de dopage d'État. L'homme n'est pas un athlète, mais un ami du président du comité paralympique bélarusse. Les manifestations politiques ne sont pas autorisées aux Jeux paralympiques, d'après un porte-parole du comité paralympique international. En signe de protestation, la Russie organise jusqu'à ce vendredi des Jeux paralympiques parallèles avec les mêmes récompenses pour ses athlètes que s'ils étaient à Rio de Janeiro.
Puisque nous parlons de Rio, Jacques, revenons sur l'affaire Ryan Lochte, déjà lâché par la plupart de ses sponsors depuis son coup de folie de Rio. Lochte n'a pas été ménagé hier par les instances sportives américaines qui lui ont infligé des sanctions lourdes, dont une suspension de compétition de 10 mois.
Il faudra attendre au mieux le 30 juin l'année prochaine pour le revoir en compétition. L'un des plus beaux palmarès de la natation américaine, Lochte s'est empêtré dans une rocambolesque affaire d'agression inventée durant les Jeux Olympiques. Le Comité Olympique Américain et la Fédération Américaine de Natation l'ont également condamné à réaliser 20 heures de travaux d'intérêt public, lui ont interdit l'accès à leurs infrastructures et ne lui verseront pas la prime qu'il aurait dû recevoir pour son titre de champion olympique du relais 4 x 200 mètres à Rio. Ultime humiliation, le nageur de 32 ans ne sera pas de la délégation des médaillés olympiques qui se rendent traditionnellement après chaque JO à la Maison-Blanche à l'invitation du président des États-Unis. Et tennis avec le US Open, les derniers résultats avec vous Idrissa.
Oui, avec la quatrième et dernière levée du Grand Chelem disputée jeudi à New York, simple dame demi-finale, Carolina Pliskova bat Serena Williams, qui perd son titre de numéro 1 mondial. Angélique Kerber bat Caroline Wozniacki.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dialogue politique en République démocratique du Congo, poursuite des discussions sur les questions électorales, démarrer avec les élections locales ou faire la priorité à la présidentielle. Les points de vue des participants sont diamétralement opposés sur ce sujet. Le point avec Walter Q de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Était passé devant les participants hier le président de la CENI, suivi du chef de l'équipe de l'OIF, le général Siaka Sangaré, les deux suivis des membres du gouvernement qui interviennent dans le processus électoral, chacun parlant des questions spécifiques liées aux élections. Corneille Nanga, président de la CENI, avait abordé la question des séquences électorales avec ses trois propositions, notamment débuter les provinciales couplées des locales pour terminer par les législatives couplées de l'élection présidentielle. La deuxième proposition débutée par la présidentielle couplée des législatives nationales et terminée par la combinaison de tous les scrutins. D'ici est sortie la question de savoir quelle est l'option que les trois composantes vont lever. Resserrée en un bloc, visiblement avec un schéma bien ficelé, la majorité présidentielle porte son choix sur la première proposition, celle qui veut qu'on débute avec les locales, ce qui va obligatoirement repousser la présidentielle au-delà de 2017 si l'on utilise les nouveaux fichiers électoraux. Léonard Che Okitu.
Nous estimons que c'est mieux de commencer par les élections locales. Toutes les élections se valent. Il n'y a pas lieu de privilégier l'élection présidentielle par rapport aux élections locales.
Côté opposition, on remarque encore un flottement dans les positions des différents acteurs, ce qui pourrait être un déséquilibre lors de l'adoption à l'Assemblée plénière. Jean-Lucien Boussa rassure tout de même.
Pour l'opposition politique, l'élection prioritaire qui doit être proposée la première, ça doit être l'élection présidentielle. C'est l'hypothèse optimale. Au-delà de cette hypothèse, je ne vois pas ce que nous faisons ici.
Les groupes thématiques censés être créés pour apporter des propositions à adopter à l'Assemblée plénière pourraient être composés au courant de la journée. Le rassemblement qui refuse de participer à ces assises devient de plus en plus dur dans ses prises de position. S'agissant de ces pourparlers, Franck Diongo parle d'un complot.
Ces complots visent en fait la négociation du virage du 20 décembre où M. Kabila bénéficiera de continuer d'être président de la République au-delà du 20 décembre. La clé des marchandages du dialogue, c'est aller valider l'arrêt de la Cour constitutionnelle. En droit constitutionnel, on n'assume pas la continuité de l'État au-delà du mandat. Le 20 décembre, il n'y aura pas de vacances, il n'y aura pas d'intérim, il y aura l'alternance. Le fait de faire ces complots dans un camp militaire, ça visualise le passage en force.
Le ministre de la Justice, Alexis Thambo Mwamba, avait promis signer un arrêté consacrant la libération des amnistiés de l'année 2014-2015, au total 110 personnes. Les détenus du Katanga pourraient aussi être libérés dans un bref délai pour décrisper le climat politique. Kinshasa, Walter Nkouy de Top Congo pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Ici à Washington, un groupe de protestataires gabonais a silencieusement manifesté au Congrès américain lors d'audiences publiques de la sous-commission des affaires étrangères consacrée à la situation au Soudan du Sud. Sur les raisons de cette manifestation, John Linden s'est entretenu avec Franck Joktan, jeune activiste gabonais.
Nous avons manifesté hier avec mes compatriotes pour justement nous assurer que les autorités américaines sont au courant de la situation qui se passe au Gabon. Nous sommes outragés de voir que notre peuple est martyrisé. Il y a beaucoup d'arrestations, il y a beaucoup de Gabonais qui ont été tués et qui ont été violentés.
Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont réagir?
Je pense que c'est dans l'intérêt des États-Unis qu'ils réagissent. Bon, hier, quand on est allé au Congrès, ils se sont manifestés en demandant, en encourageant le président Obama d'encourager Ali Bongo de pouvoir recompter les votes.
Alors, sur place au Gabon, l'opposant Jean Ping a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Comment vous voyez cette action?
Bon, je pense que le candidat Jinping l'a fait parce que bon, il y a beaucoup de pression à l'international. Donc je pense qu'il joue en ce moment le jeu. Je pense qu'il veut aussi satisfaire la communauté internationale et ses obligations vis-à-vis des Gabonais et aussi la constitution gabonaise. Je ne fais pas confiance aux institutions gabonaises parce que pour moi, elles sont taillées de surmesure pour l'homme au pouvoir, c'est-à-dire Ali Bongo Ondimba. Donc je pense que même si on va à la Cour constitutionnelle, cette Cour constitutionnelle ne dira pas le droit, elle n'est pas impartiale. Elle se mettra toujours du côté d'Ali Bongo, de sa famille et de leurs alliés. Je pense que Jinping a accepté d'y aller pour respecter en fait le vœu de la communauté internationale et puis bon, la pression dans laquelle il est.
Sachant justement que les décisions de la Cour sont sans appel, et si la Cour confirmait la décision de la CENAP?
En ce qui me concerne, je considérais que mon vote a été volé et que le vote de milliers de Gabonais a été volé. Moi, je veux que le Gabon soit un pays démocratique comme tous les pays du monde, hein, qui se respectent. Je dis et je veux que le choix des Gabonais et le choix des urnes soient respectés. Donc, bien entendu, je n'accepterai pas que la CENAP me vole mon vote une deuxième fois. Et je pense que beaucoup de Gabonais n'accepteront pas cela non plus.
Franck Joctan, jeune activiste gabonais.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Retour ce matin sur l'accident ferroviaire dû à l'effondrement du pont du fleuve Nzi, mardi à Dimbokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Le train de marchandises qui reliait à Abidjan à Ouagadougou au Burkina Faso comportait 2 locomotives et 20 wagons transportant plus de 1 000 tonnes de marchandises. Le trafic ferroviaire entre les 2 États sera interrompu pour au moins 2 semaines, ont annoncé les responsables de la compagnie Citarail qui gère le trafic. Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Karim Gadiaga, journaliste à l'Économiste du Faso.
La ligne de chemin de fer Burkina-Côte d'Ivoire est présentée en quelque sorte comme le cordon ombilical entre les 2 pays sur le plan des échanges commerciaux. Et chaque année, c'est près de 300 000 voyageurs qui voyagent par les trains et 900 000 tonnes de marchandises qui sont transitées en tout cas entre les 2 pays et via les trains. Donc du coup, cette ligne-là a une importance capitale, en tout cas en termes commerciaux et entre les 2 pays.
On nous annonce que la communication va être interrompue pour au moins 2 semaines à cause de l'accident qui a eu lieu à Dimbokro. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le plan économique?
Sur le plan économique, déjà, de façon immédiate, puisque nous sommes en plein préparatif de la fête de Tabaski, la fête de l'Aïd et le Kébi, où effectivement il y a le mouton qui est consommé au niveau de la Côte d'Ivoire, et ce mouton qui est consommé au niveau de la Côte d'Ivoire transite en tout cas provenance du Burkina et puis des autres pays sahéliens, notamment le Niger et le Mali, et tous ces animaux-là sont transités par les trains à destination de la Côte d'Ivoire. Donc de façon immédiate déjà, c'est le transport du bétail qui pourrait en tout cas faire les frais de cet accident-là sur le chemin de fer. Et puis à la longue aussi, c'est aussi je le disais tantôt, puisque le chemin de fer a une importance capital pour le transport des marchandises entre les 2 pays, notamment les minéraux, les matériaux comme le pétrole, les ciments et autres. Donc du coup, le transport de toutes ces marchandises-là qui pourraient, en tout cas à un moment donné, connaître des difficultés en attendant que la ligne soit rétablie.
Est-ce qu'il faut voir dans cet accident l'entretien du chemin de fer qui est quand même assez ancien, hein?
Effectivement, vous posez une question qui est très juste parce que il était prévu à l'occasion de la signature du nouveau contrat de concession en début d'année 2016. Voilà, il était prévu la réfection de cette ligne-là et cette réfection devait quand même coûter près de 262 milliards prévus sur 5 ans. Bon, du coup, l'accident arrive avant le démarrage de ces travaux et prouve du coup qu'effectivement, il y a un besoin réel de réfection de la ligne.
Karim Gadiaga, journaliste à l'Économiste du Faso.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Présidentielle américaine 2016, la Caroline du Nord donne ce vendredi le coup d'envoi du scrutin du 8 novembre. avec le démarrage de son vote par anticipation. Le point avec Lionel Gahima.
Oui, Idrissa, la Caroline du Nord est l'un des 37 États de la Fédération à permettre le vote par anticipation. Lors de la présidentielle de 2008, plus de 45 millions d'Américains, soit 35 de l'électorat, avaient voté avant la date officielle. Pour cette année, certains fonctionnaires américains déployés à l'étranger ont déjà voté. Tous les suffrages ne seront dépouillés et comptés que le jour de l'élection, à savoir le 8 novembre. Les conditions du vote par anticipation et du vote en général varient en fonction des États et des territoires américains. Aussi, à l'approche de chaque élection, elles font souvent l'objet de vives querelles. Jeudi, le Conseil électoral de la Caroline a écouté les partis en conflit dans 33 des 100 comtés de cet État où les leaders n'ont pas su s'entendre sur le plan pour le vote par anticipation. Parmi les questions litigieuses, celle de l'inclusion du dimanche parmi les jours du vote par anticipation. C'est un jour particulièrement bénéfique pour les électeurs africains-américains qui s'organisent pour aller voter en masse après le service religieux. 21 comtés de Caroline du Nord avaient autorisé le vote du dimanche à la dernière élection, mais ils ne sont plus que 12 cette fois-ci.
Une cour d'appel fédérale avait invalidé en grande partie une loi électorale approuvée en 2013 par les Républicains, majoritaires dans l'Assemblée de Caroline du Nord, Lionel.
Oui, Idrissa, les élus républicains de la Caroline du Nord avaient fixé des conditions draconiennes pour les élections, avec notamment une vérification stricte de documents d'identification et une réduction de la durée du vote par anticipation. La Cour fédérale d'appel a estimé que ces mesures ont contribué à une suppression du vote africain-américain avec, dit-elle, une précision presque chirurgicale. L'instance judiciaire fédérale a rétabli la durée initiale du vote par anticipation en Caroline du Nord, mais a laissé au comté la latitude de fixer le nombre de bureaux de vote ainsi que la durée du scrutin. La Caroline du Nord est l'un des États clés de la présidentielle 2016. Le président Barack Obama, un démocrate, y a gagné de justesse. D'où les intenses efforts des camps de la candidate démocrate Hillary Clinton et de son adversaire républicain Donald Trump en direction des électeurs de cet État.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa. Mama, so kyo zala ipa kana.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Georges Léonard Sagnot pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.